Vous écoutez Zone Parc sur la fréquence 107 et le www.radiobartas.net. Zone Parc, c'est l'émission du Parc national des Cévennes. Un nouveau rendez-vous chaque mois pour vous parler de l'actualité du Parc national. Cette émission est diffusée une semaine le mardi à 17h, la semaine suivante le jeudi à 10h. Bienvenue dans les studios de Radio Bartas pour une nouvelle émission avec le Parc national des Cévennes. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un nouvel ouvrage édité par le Parc national dans la collection Cahiers pratiques. Un ouvrage qui s'intitule « Réussir un projet durable ». C'est un ouvrage collectif mais qui a été rédigé par Sylvette Matteoli que nous accueillons aujourd'hui, déléguée territoriale du Parc national des Cévennes sur le secteur des Basses Cévennes. Donc Sylvette, bonjour.
Bonjour.
Et puis, ça ne sera pas un secret, nous allons nous tutoyer puisque nous travaillons toutes les deux pour le Parc national. Nous accueillons également Sandrine Marmet, qui est coordinatrice du comité de bassin d'emploi des Cévennes, ici à Florac, et Hervé Bonin, directeur de l'ESAT La Pradelle à Somanne, dans le Gard. Et je ne résiste pas au fait de dire que ces deux communes viennent d'adhérer à la charte du Parc national des Cévennes. Alors Sylvette, nous allons donc commencer par t'écouter, nous dire ce que tu peux nous dire sur cet ouvrage « Réussir un projet durable ».
Oui, alors cet ouvrage, donc « Réussir un projet durable » vient de sortir. Il faut savoir que c'est un ouvrage qui fait suite aux travaux de la Commission Développement Relations Locales entre 2007 et 2008, dont le président à l'époque était Hubert Pfister, et qui avait élaboré en fait une grille d'analyse des projets au regard de critères de développement durable. C'est un outil qui, cette grille, qui était un outil assez technique, hein, dont la vulgarisation a été souhaitée pour la rendre en fait accessible dans son contenu à tous les porteurs de projets. La première rédaction a eu lieu en 2008. Elle a été interrompue par les travaux de la charte, hein, de l'élaboration de la charte, et reprise en 2013, donc pour une publication de l'ouvrage « Réussir un projet durable » en 2014. Cet ouvrage vise à définir ce qu'est un projet durable. Effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un projet durable ? C'est un projet en fait qui répond aux enjeux du développement durable, qui sont multiples et qui sont à l'intersection de l'économie, du social et de l'environnement. Les grands défis que nous pose le développement durable sont par exemple le réchauffement climatique, la perte dramatique de biodiversité ou encore un développement qui ne répond pas aux besoins vitaux de tous et qui se fait encore à deux vitesses entre le nord et le sud de la planète. Le développement durable, sa définition, telle qu'elle est apparue dans les années 80, est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Les réponses à apporter pour prendre sa part hein, de ces défis et de ces enjeux du développement durable sont certes beaucoup du ressort des politiques nationales et internationales, mais pas uniquement. Nous avons tous notre rôle à jouer par nos actions quotidiennes et les projets que nous menons. Qui plus est dans un parc national, et un parc national classé en réserve de biosphère. C'est une reconnaissance internationale du territoire pour sa capacité à concilier, depuis des années maintenant, la préservation de l'environnement et les activités humaines. Et puis le parc national des Cévennes, c'est quand même le seul parc de métropole habité en son cœur. Le cœur étant la zone protégée et réglementée de notre territoire. La charte, qui est le projet donc, que nous avons élaboré avec l'ensemble des acteurs du territoire et qui est valable pour le cœur dont je viens de vous parler, mais aussi pour son aire d'adhésion, qui est l'espace contractuel qui borde ce cœur, et qui est donc cette charte, un document en fait en faveur d'un développement local durable pour les 15 ans à venir. Cette charte réaffirme très fortement le lien très particulier et ancestral de l'homme avec la nature. Et donc ici plus qu'ailleurs, le développement durable a du sens. L'homme génère et entretient par des activités socio-économiques raisonnées la biodiversité et les paysages qui l'entourent. Pour que nous puissions tous être les garants de cet environnement exceptionnel, qui est un atout en fait pour le développement actuel et à venir, le Parc national a édité un ouvrage pour tous ceux qui ont un projet qu'ils souhaitent durable. Cet ouvrage, Réussir un projet durable, se construit en trois parties. La première vise à préciser son idée. et s'assurer notamment de sa viabilité au regard des grandes évolutions susceptibles de se produire dans les années à venir. La deuxième partie, faire prendre racine à mon projet, vise à analyser la manière dont elle s'insère dans son territoire. Est-ce que le projet, est-ce que mon projet, prend en compte la culture ou l'architecture locale, mais sans pour autant se couper de la modernité? La troisième partie est relative à la manière dont on va faire grandir son idée, en l'analysant, sous trois angles. Les impacts environnementaux, autrement dit, comment est-ce qu'on diminue les effets négatifs de son projet, par exemple une pollution de l'eau ou une destruction d'espèces, et comment est-ce qu'on valorise les effets positifs? On peut avoir par exemple recours aux énergies renouvelables ou encore utiliser des produits locaux. Les questions aussi que l'on peut se poser au sujet de son projet peuvent être relatives à la manière dont il respecte les hommes d'ici et d'ailleurs, les générations actuelles et celles à venir. C'est tout ce qui concerne les solidarités ou les achats responsables que l'on peut développer. Et puis la dernière partie de cet ouvrage est relative à l'aspect économique du projet. Est-il rentable? Et est-ce qu'il apporte une plus-value à son porteur, mais aussi potentiellement à l'ensemble du territoire, en valorisant par exemple des ressources locales, comme le bois, la pierre, voire les milieux ouverts. Pour mener cette analyse, donc l'analyse de son projet, le lecteur a à sa disposition, dans ce guide, dans cet ouvrage, 27 questions qu'il peut se poser dans leur totalité, ou bien il n'en sélectionne que quelques-unes qui le concernent. Des réponses à ces questions sont apportées au fil des pages et un éclairage supplémentaire est donné à chaque question. Il s'agit soit d'un éclairage sur un concept ou alors une expérience locale qui est remarquable et que nous avons souhaité faire partager à l'ensemble des lecteurs.
Merci Sylvette. Eh bien, c'est l'heure d'une petite pause musicale. Nous allons écouter Siren's Call du groupe Cats on Trees.
Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling away. This means so much more. The floating boat is carrying. Story differently. The greedy siren chewing all around me. Will I sing? Oh, 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 oh. And the falling shows, I wonder why me. On my way to the falls, I hope you see. We are heading to the world, even if you're sorry. Will I sing? Oh, 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 oh. In my sleep, nothing's same. Nothing
vous êtes toujours dans la zone parc sur Radio Bartas. Nous parlons aujourd'hui de l'ouvrage « Réussir un projet durable », récemment édité par le Parc national des Cévennes. Nous avons écouté Sylvette qui a rédigé cet ouvrage. Et nous donnons à présent la parole à deux invités dont les deux expériences sont valorisées dans l'ouvrage « Réussir un projet durable ». Il s'agit de Sandrine Marmet, coordinatrice du CBE des Cévennes. Donc Sandrine, pouvez-vous nous parler de ce projet qui a consisté à créer des groupements d'employeurs dans les domaines agricoles et associatifs, ici, ou en tout cas dans le sud de Lozère. Voilà, donc je vous laisse, je vous laisse nous parler de ce projet.
Merci de votre invitation, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis coordinatrice du CBE, le comité de bassin d'emploi. C'est une association de développement local qui a maintenant 10 ans. Donc le spectre de l'association est assez large dans le développement local. Donc on a travaillé sur la formation et aussi sur les groupements d'employeurs du coup. En fait, le travail qu'on a amorcé concernait d'abord le domaine agricole. On a réalisé un travail il y a déjà quelques années sur les petites exploitations agricoles. Et en travaillant sur les problématiques des agriculteurs, on s'est rendu compte que un de leurs soucis, c'était de pouvoir libérer du temps libre. Et on a cherché avec eux comment ils pouvaient s'organiser pour bénéficier de ce temps libre. Et une des solutions qui a émergé, ça a été le groupement d'employeurs. Donc on a accompagné la création de groupements d'employeurs agricoles sur le secteur. Donc il y en a 4 aujourd'hui. Et puis d'autres qui se sont créés aussi par d'autres biais avec d'autres types d'accompagnement, notamment au niveau départemental avec la structure Agri-Emploi que certains connaissent peut-être. Donc voilà, il y a aussi un travail de partenariat avec cette structure, bien sûr. Et puis après, quand on a fait ce travail-là, on s'est interrogé aussi sur nos pratiques associatives aussi. Et on avait, nous aussi, des petits besoins, notamment sur des fonctions support de type administrative. Et on n'osait pas vraiment... on est une petite structure, donc on n'osait pas forcément franchir le pas. Et du coup, on a un petit peu exploré autour de nous quelles étaient les structures qui avaient les mêmes besoins. Et on s'est dit que nous aussi, on pouvait créer un groupement d'employeurs à plusieurs associations. Donc en fait, la naissance du groupement d'employeurs des Cévennes, c'est son nom, il est parti de nos besoins en interne. Alors au départ, on était deux. Il y avait l'association Aider, qui avait besoin de quelqu'un en administratif. Et puis à partir de là, on s'est dit que ça pouvait valoir le coup d'explorer un peu plus les besoins d'autres structures. Et de voir s'il n'était pas possible de créer de l'emploi salarié sur cette zone rurale qu'est le sud Lozère, en sachant que, en termes économiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup une forte proportion en fait d'indépendants, d'entreprises individuelles, que l'emploi salarié est finalement assez réduit. Dans le secteur marchand en tout cas. Du coup, c'était aussi un moyen de lancer une dynamique autour de l'emploi salarié. Donc on a diagnostiqué en fait les besoins auprès des associations déjà sur le secteur de Florac et puis après un peu plus largement sur le sud de Lozère. Et du coup, ça a à peu près fonctionné. Donc là, le groupement d'employeurs, il a été créé début 2008, donc avec 2 adhérents et un salarié. Et aujourd'hui, il est composé de 15 structures. Et on vient de créer en début de semaine, donc le 17 mars, le 6e emploi. Donc qui est partagé à plusieurs. Donc je vais quand même revenir un petit peu peut-être sur le fonctionnement d'un groupement d'employeurs.
Oui, volontiers.
Donc comment ça fonctionne ? C'est une association, loi 1901, avec un objet, la mise à disposition de personnel. Donc ça veut dire que le groupement d'employeurs embauche une compétence et la met à disposition auprès de ses adhérents. Donc pas forcément l'ensemble des adhérents, mais en fonction des besoins qui ont été identifiés. Donc si je prends un exemple concret, on a une femme de ménage qui est embauchée par le groupement d'employeurs depuis maintenant 5 ans. Elle est à temps partiel et elle travaille auprès de 7 structures. Donc effectivement, ce sont des tout petits bouts d'emploi là pour le coup. Et ça arrive à lui faire un petit mi-temps à ce jour. Donc l'idée, c'est au fur et à mesure de pouvoir augmenter le volume horaire de son emploi à elle, pour qu'elle s'y retrouve, pour que ça se passe bien, qu'elle soit bien dans son travail, on va dire. Donc ça, c'est un exemple. Donc concrètement, le groupement d'employeurs embauche, met à disposition, fait le bulletin de paye et envoie une facture à l'adhérent au prorata du temps passé par la personne bénéficiaire, en fait, voilà. Donc, y a une convention qui permet une convention tripartite qui permet d'établir le rôle de chacun. Voilà, donc l'employeur, la fonction employeur appartient bien au groupement d'employeurs et l'adhérent est bénéficiaire en fait du service rendu. Voilà, donc le groupement d'employeurs, je tiens à le dire, n'est pas une agence d'intérim, ce n'est pas le même principe. Le groupement d'employeurs, il y a des valeurs de solidarité entre les adhérents. Donc c'est vrai, quand on s'engage dans un groupement d'employeurs, il y a un risque entre guillemets. Ça veut dire qu'on est, solidaire, en fait, les adhérents sont solidaires des dettes qui peuvent être contractées par le groupement. Et s'il y a une défaillance d'un des adhérents, il faut que les autres adhérents puissent venir combler cette déficience ponctuelle, on va dire. Donc ça n'est jamais arrivé dans le groupement d'employeurs dont je vous parle. Il fonctionne plutôt bien. Alors l'intervention que je fais, elle est aussi sur la qualité des emplois, donc je vais en dire un mot quand même. Donc on travaille quand même avec des associations de petite taille, avec des budgets assez réduits. Donc on a du mal quand même à pérenniser les postes. Donc l'idée, c'est quand même d'augmenter le volume horaire, de travailler sur la qualité du travail, notamment par un plan de formation qu'on met en place. On est quand même sur des emplois souvent à temps partiel, donc un peu précaires malgré tout. En CDD aussi, on a du mal aussi à contracter des contrats sur du long terme, parce que les associations n'ont pas forcément la capacité à se projeter au-delà d'un an ou de deux ans. Donc on essaye de respecter quand même les capacités de chacun. Voilà. Mais on a tout un travail d'accompagnement auprès de la structure, auprès des salariés, notamment par le biais du plan de formation. Voilà. Donc on essaye d'être vigilant sur ces aspects-là. Et puis les adhérents, ils sont quand même assez variés. Hein. Il y a la radio dans laquelle on est aujourd'hui. La personne qui est juste derrière moi, en fait, est embauchée par le groupement d'employeurs. Elle partage son temps entre la radio et le foyer rural de Quézac. Voilà. Il y a trois foyers ruraux, en fait, parmi les adhérents. Il y a différentes associations de développement local. Il y a les offices de tourisme. Il y a une collectivité locale, la communauté de communes de Florac. Donc on essaye d'étoffer en fait cette partie associative et on va dire non marchande. Et l'idée aussi, c'est d'aller chercher sur le secteur marchand les possibilités de mutualisation d'emplois. On est aussi sur un tissu économique avec des petites structures parfois les employeurs ne font pas la démarche d'embaucher sur des fonctions support, donc du coup des fonctions transversales. Et du coup, il y a matière à pouvoir mutualiser des compétences sur le territoire.
Merci. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a d'autres secteurs que le secteur associatif ou agricole dans lesquels vous seriez susceptible de développer des groupements d'employeurs ? Si ça se présente, je comprends
oui,
bien.
Oui, la démarche est bien entamée avec deux entreprises sur Florac. Ça devrait déboucher, enfin en tout cas je le souhaite. Donc il y a des possibilités. Alors c'est vrai que les entreprises sont un peu frileuses parce qu'il y a parfois un manque de collaboration avec d'autres entreprises. Donc il faut bien se connaître. C'est important de bien définir aussi les besoins en termes de compétences pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est pas un jeu de mots, c'est vrai. du coup, que les adhérents, en tout cas, autour de la compétence soient bien d'accord et puissent se faire confiance. Donc, il y a aussi une histoire de confiance qui se joue dans cet outil groupement d'employeurs. Voilà.
Parfait, merci beaucoup et je crois qu'on a bien compris en quoi le groupement d'employeurs a un impact sur la qualité de l'emploi local puisque c'est votre expérience apporter un éclairage concernant cette question-là. Merci.
Est-ce que je peux laisser nos coordonnées quand même si les auditeurs veulent avoir plus d'infos? Je profite de l'antenne, donc n'hésitez pas à appeler le 04 66 45 26 38. Merci.
Merci à vous. Eh bien, nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Bonin, qui est donc directeur de l'ESAT La Pradelle à Somane, dont le projet, c'est-à-dire l'ESAT lui-même, me semble-t-il, a également été valorisé dans le livre « Réussir un projet durable ». Et je vais donc vous demander, Monsieur Bonin, à vous également, en quoi... Là, pour le coup, votre projet réduit les inégalités sociales. puisque c'est l'éclairage donc sur cette question-là pour votre projet.
Merci de cette invitation. Et effectivement, l'ESAT La Pradelle est un établissement assez atypique parce que c'est un établissement d'aide par le travail, ce qu'on appelait avant un CAT. Nous y faisons travailler sur le site de La Pradelle 37 personnes, donc des adultes et des adultes autistes ou, comme on dit aujourd'hui, porteurs d'un trouble du spectre autistique. Donc on accueille une population très, très particulière et en 1984, quand notre association gestionnaire Sésame Autisme Languedoc s'est installée là, on pouvait se demander un petit peu quelle était l'idée d'aller s'enfermer au fin fond de la vallée Borgne, alors qu'on commençait déjà dans les années 80 à parler d'inscription sociale, de citoyenneté. Ces termes-là ont été développés depuis et un petit peu modernisés. Les personnes handicapées sont parmi les plus celles qui sont traitées avec le plus d'inégalités en France. Quand on regarde un petit peu les différents les indicateurs, le taux de chômage, le niveau de formation initiale, l'accès à la scolarité, etc., les personnes handicapées sont parmi les plus exclues. Et parmi les personnes handicapées, les autistes sont les exclus des exclus. Tout simplement parce que s'il existe en France aujourd'hui des dispositifs médico-sociaux, scolaires, dès le plus jeune âge pour les personnes handicapées, ces dispositifs sont rarement pertinents pour les personnes autistes qui ont des troubles tout à fait particuliers. Alors, nous accueillons des personnes adultes et l'idée du projet, c'est que ces personnes vivent comme tout un chacun et leur dignité et accès à une citoyenneté, une participation sociale et puis surtout aient un rôle d'acteur. Alors sur Somman, aujourd'hui, en tout cas sur la vallée Borgne en particulier, l'ESAT La Pradelle est le premier employeur. Je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons travailler 37 personnes avec des activités agricoles. Alors on s'inscrit pleinement dans cette idée du parc des Cévennes, dans l'idée d'un développement durable, puisque nous sommes en agriculture biologique, nous avons de l'élevage, des volailles, des porcs, nous avons un atelier de pâtisserie, un atelier de charcuterie aussi traditionnel pour valoriser les porcs que nous élevons nous-mêmes. Un verger qui est quasiment un conservatoire avec 52 ou 54 variétés de pommes traditionnelles. Nous faisons notre jus de fruits nous-mêmes. Une activité bois de chauffage qui s'est considérablement développée ces années avec une notion de service, puisqu'on ne se contente pas de vendre du bois, on le livre et on le range. Et c'est vraiment le fait d'être pour le même prix livré et rangé. Pour les papés-mamés des petits masses environnants, c'est un sacré plus. Et on refuse du monde aujourd'hui, on croule sous les demandes, on vient d'acheter une grosse machine, etc. Mais c'est vraiment une activité, c'est le service plus que le bois qui est apprécié. Et puis l'autisme, quand on dit autisme, il y a trois grandes caractéristiques. C'est un trouble de la communication, c'est un trouble des interactions sociales, la difficulté à être en relation avec l'autre, et c'est aussi des comportements stéréotypés, répétitifs et des centres d'intérêt restreints. Avec cette caractéristique-là, qu'est-ce qu'on peut bien faire comme travail? Et là où les CAT, les ESAT traditionnels font des activités de type conditionnement, mise en sachet, pliage, cartonnage, nous, ces activités-là, sont contre-productives. Parce que l'autisme étant un trouble de la communication, si vous mettez quelqu'un tout seul à une table à faire des activités répétitives, vous allez renforcer la maladie, la pathologie. Donc nous, on travaille en équipe. Que du travail d'équipe, des activités saisonnières, des activités rythmées et des activités créatives. Il faut que la personne soit acteur, qu'elle ne se contente pas de reproduire quelque chose d'une façon circulaire et mécanique, mais bien que sa créativité puisse s'exprimer. Alors la cuisine notamment a été dès le début, la Pradelle s'est construite avec l'idée d'une ferme auberge. Et encore aujourd'hui, la plupart de nos activités, celles dont j'ai parlé il y a quelques instants, sont valorisées à l'auberge. L'auberge nous sert de vitrine des savoir-faire, des compétences des ouvriers handicapés. Une auberge traditionnelle, cuisine gastronomique, traditionnelle Cévenole, sur un lieu de passage, donc les personnes qui viennent chez nous ne savent pas forcément qu'ils sont dans un ESAT. Donc nous avons les contraintes de n'importe quel restaurant, avec les contraintes des restaurants, plus des contraintes spécifiques, parce qu'on fait travailler un public pas tout à fait comme les autres, et puis parce que on est soumis à une réglementation un petit peu plus sévère que la moyenne des restaurants, parce qu'on fait travailler des personnes handicapées, et que les services vétérinaires notamment considèrent qu'on a un risque supplémentaire. L'auberge La Pradelle, elle est au niveau des inégalités sociales, ou en tout cas de l'inscription sociale, elle est aussi très très intéressante, parce que nous avons une équipe de 6-7 personnes en cuisine et à la plonge, et nous avons une équipe au service de 3-4 personnes en tout cas qui alternent. Et c'est vrai que ils ne sont pas très très nombreux parmi nos 37 ouvriers à être en capacité d'affronter, au sens pacifique du terme, d'affronter le client, d'aller prendre une commande, de regarder le client et d'être en relation sociale. Pour certains, ça leur a pris 10 ans, 12 ans, 15 ans pour être capable de faire ce travail-là. Et les personnes qui viennent aujourd'hui à la Pradel, alors je dis, il y a des clients de passage, mais il y a aussi quand même pas mal d'habitués et qui apprécient cette singularité, passer le premier moment de surprise, qui se dit, il y a une âme, il y a une âme en plus. Alors c'est vrai qu'il faut pas être rigide, parce que des fois on commande quelque chose et puis c'est pas tout à fait ce qu'on a commandé qui arrive. On a quelques serveurs qui ne savent pas lire, pas écrire, mais qui sont quand même en capacité de prendre des commandes. Alors on a tout un tas de petites astuces en cuisine, on a des pictogrammes, on a des codes couleurs, on a des petites figurines sur les tables, etc., qu'on retrouve après au moment de la prise des menus. Alors tout un tas de, on va dire, d'astuces ont été développées par les moniteurs. On a bien sûr un moniteur en cuisine qui est un cuisinier professionnel, une monitrice en salle qui a appris le métier, elle, sur le tas, qui n'a pas forcément fait l'école hôtelière, mais ces gens-là sont focalisés sur les apprentissages des personnes. Et on voit au fur et à mesure des personnes qui progressent, des personnes qui apprennent. Nous avons depuis un an notre première expérience d'une jeune femme qui est en train de passer son CAP hôtelier au lycée hôtelier Marie Curie de Saint-Jean-du-Gard. C'est la première fois en 27 ans de la Pradel que ça nous arrive. Parce qu'elle est d'un haut niveau. Vous savez que dans l'autisme, il y a plusieurs niveaux. Hein. On parle des Asperger, des autistes de haut niveau. Bon, des personnes avec quand même un petit bagage scolaire ou un bagage scolaire correct qui peuvent arriver à engager ce type de formation. Pour les autres, on ne les oublie pas. Et on monte régulièrement des produits de formation. Alors, on fait appel à des organismes. Il faut adapter, bien entendu, à ces personnes particulières. Mais petit à petit, les progrès sont là, les progrès sont réels. Je crois vraiment qu'on a une qualité de prestation. Alors déjà, on n'a que des bons produits, des produits qui sont faits dans nos ateliers, dans notre ferme, et qui sont transformés après. Il y a un rapport qualité-prix à la Pradel. Je profite de l'antenne pour faire un peu de publicité, bien entendu. Rapport qualité-prix qui est comme, je crois, loué, félicité, et la fidélité de notre clientèle est la meilleure preuve. Mais au-delà, parce que le chiffre d'affaires, c'est un moyen pour nous, c'est pas un objectif, c'est le moyen d'aider des personnes, d'amener des personnes handicapées à une vraie citoyenneté, à exercer un métier, à apprendre. Et puis, cette mise au travail, elle s'accompagne bien entendu d'une inscription sociale, parce que nous avons des petites unités de vie, on n'a pas un gros foyer. On a des petites maisons de 5, 6, 7 personnes maximum à Saumane, dans Saint-Jean-du-Gard. Une dizaine sont en appartement individuel. Il y a 30 ans, quand l'association a ouvert, aucun des fondateurs, un des fondateurs encore en vie me le disait il y a pas très longtemps, aucun des fondateurs n'aurait cru que leur enfant serait capable un jour de vivre tout seul en appartement. Aujourd'hui, pour une dizaine d'entre eux, c'est possible, et avec là aussi un dispositif, une hotline, des cadres de permanence, un dispositif social près du corps, un maillage entre Saint-Jean-du-Gard et Saumane, l'intérêt des toutes petites villes avec une solidarité locale aussi qui est là, qui est réel. Quand il y a un petit souci, ah, c'est quelqu'un de l'ESAT, on appelle de suite. C'est pas j'appelle la gendarmerie ou les pompiers, c'est on sait qui c'est passager, c'est pas dangereux, on se connaît. Et l'inscription sociale, elle passe aussi par là, avec un travail éducatif de nos équipes. Et c'est vrai que on est éducateur, on est moniteur d'atelier, pas uniquement pour faire un boulot, pas uniquement pour des raisons alimentaires. Il y a un vrai, vrai engagement de tous nos salariés hein, dans l'accompagnement, parce qu'il y a des moments sympathiques, mais il y a des foutus moments aussi, et c'est pas toujours rose. Et quand on a des personnes qui ne vont pas bien et qu'on a 40 personnes en salle, eh ben, il faut considérer la personne handicapée, parce que c'est notre métier, mais il faut aussi servir les 40 clients qui sont venus et qui attendent et qui exigent une prestation. Et nous arrivons à concilier à la fois la singularité de notre public et puis répondre à une clientèle et avoir un réel niveau qualitatif.
Merci et bravo, vraiment bravo pour ce très beau projet dont on comprend qu'il a été choisi pour apporter un éclairage à la question de l'ouvrage « Réussir un projet durable », donc à la question « Mon projet permet-il une réduction des inégalités sociales ?» Je crois qu'on a bien compris. Et bravo aussi, puisque non seulement il réduit les inégalités sociales, mais il est aussi favorable à l'environnement à travers donc, votre production en agriculture biologique. Merci, mais je vais donc redonner la parole à Sylvette Matteoli pour lui demander cet ouvrage, eh bien, on peut le trouver où, quand, comment.
Et à quel prix.
Et à quel prix.
Alors justement, le Parc National en fait, a souhaité une diffusion très large et majoritairement gratuite en fait, de cet ouvrage pour que tous les porteurs de projets, toutes les personnes qui ont un projet puissent se le procurer facilement. Et il est notamment en train d'être envoyé donc, par nos soins à toutes les personnes qui ont contribué par leur expérience à sa rédaction. On va l'envoyer également à toutes les communes qui ont adhéré à la charte du parc national et aux intercommunalités du territoire, mais aussi à la région, au département et aux autres parcs nationaux. Et puis, toutes les têtes de réseau, qu'elles soient associatives ou de services publics et qui accueillent des porteurs de projets, en auront plusieurs exemplaires à distribuer. J'oublie certainement du monde d'autres personnes à qui on va l'envoyer, mais sachez que pour ceux qui ne l'auraient pas grâce à ces relais, il est téléchargeable sur le site internet du Parc National des Cévennes et en vente au prix de 10 euros dans les maisons du parc, les relais d'infos et la boutique en ligne.
Eh bien, merci. Il me reste à vous remercier tous les trois et bonne continuation dans tous vos projets. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Vous étiez dans la zone parc sur Radio Bartas. Cette émission était animée par Catherine Dubois, chargée de communication au Parc National. Vous pouvez retrouver cet enregistrement en podcast sur www.radiobartas.net.